Salut tout le monde! On plonge aujourd'hui dans l'histoire, enfin, plus précisément dans le traité de l'Élysée,
Ah oui?
un accord super important entre la France et l'Allemagne, signé en 1963, et oui, seulement 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
C'est ça?
par Charles de Gaulle.
Oui!
Et prononciation allemande Konrad Adenauer. Vous imaginez un peu le contexte,
Oui, tout à fait.
l'objectif. C'était de vraiment encourager la réconciliation et la coopération entre ces deux pays qui, historiquement, étaient plutôt rivaux. Mais ce traité, il n'a pas fait l'unanimité, hein,
Non.
notamment à cause d'un préambule, ajouté par le Bundestag allemand, qui ne collait pas vraiment avec la vision de Gaulle. Alors, est-ce que ce traité a vraiment tenu ses promesses? Comment est-ce qu'il a influencé les relations franco-allemandes et l'Europe d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble.
Avec plaisir.
OK. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte de l'époque. On est en 1963. En pleine guerre froide.
Oui.
L'âme, elle est divisée et la France cherche à retrouver sa place tout en gardant un œil sur la puissance allemande.
Oui, c'est une période vraiment charnière pour l'Europe. Le traité de l'Élysée, il arrive dans un contexte très particulier, très tendu. On a la guerre froide qui bat son plein, l'Allemagne est divisée en deux blocs et la France, elle essaye de se reconstruire, de retrouver son rôle sur la scène internationale, tout en essayant de contenir d'une certaine manière la puissance allemande.
C'est ça. Et du côté du traité lui-même, il prévoyait quoi exactement?
Eh bien, il mettait en place plusieurs choses. Déjà, des consultations régulières entre les deux pays sur la politique étrangère, une coopération en matière de défense. Et puis, un point très important, il encourageait les échanges culturels et éducatifs, en particulier pour les jeunes. L'idée, c'était vraiment de créer des liens forts entre les deux peuples.
Donc, si je comprends bien, de Gaulle, il voulait une Europe des nations indépendante des États-Unis. Alors que Adenauer, lui, il voulait plutôt ancrer solidement l'Allemagne de l'Ouest dans le bloc occidental. C'est bien ça.
C'est exactement ça. Deux visions de l'Europe qui s'opposent un peu dès le départ, mais qui vont quand même réussir à trouver un terrain d'entente avec ce traité.
Avant d'aborder la controverse du préambule, on peut peut-être revenir sur ce qui a préparé le terrain pour ce traité.
Oui, bien sûr.
Je pense notamment au plan Schuman, à la CECA, à la résolution de la question sarroise.
Tout à fait. Ces initiatives, elles ont joué un rôle vraiment crucial dans le rapprochement franco-allemand. Le plan Schuman, par exemple, il a mis en place la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950. C'était une première étape vers l'intégration économique de l'Europe et ça a montré que la France et l'Allemagne pouvaient travailler ensemble malgré leur passé.
Et la question sarroise, c'était aussi important, non?
Ah oui, très important. Ça a permis de régler un vieux conflit territorial entre les deux pays. La Sarre, c'était un territoire disputé depuis des siècles, et le fait de trouver un accord, ça a vraiment apaisé les tensions.
Tout ça pour dire que le traité de l'Élysée, il ne sort pas de nulle part.
Exactement.
C'est le résultat d'un long processus de rapprochement
Ouais.
entre la France et l'Allemagne.
C'est ça.
Et ce rapprochement, elle a failli dérailler avec cette fameuse histoire du préambule. Racontez-nous.
Alors, imaginez. Le Bundestag allemand, il ajoute un préambule au traité, un préambule qui réaffirme l'engagement de l'Allemagne envers l'OTAN et les États-Unis.
Ah oui.
Pour de Gaulle, c'est une vraie trahison. Il se sent piégé, il est furieux. En privé, il traite les politiciens allemands de cochons, il les accuse de se soumettre aux anglo-saxons. Pour lui, ce préambule, c'est une insulte à l'esprit du traité. Il avait imaginé une Europe indépendante et là, l'Allemagne réaffirme son allégeance aux États-Unis.
Et la France, comment est-ce qu'elle a réagi?
Officiellement, la France a accepté le préambule. Mais cet épisode, il a quand même laissé des traces. Il a montré qu'il y avait des divergences profondes entre la France et l'Allemagne sur la place de l'Europe dans le monde. De Gaulle, il était pour une Europe indépendante, puissante, capable de rivaliser avec les superpuissances. Adenauer, lui, il voyait plutôt l'Europe comme un partenaire des États-Unis, ancré dans le bloc occidental.
C'est intéressant,
Oui?
parce que ça montre que même si le traité a été signé, il y avait encore beaucoup de travail à faire pour construire une véritable entente franco-allemande.
Oui, tout à fait. Le traité de l'Élysée, c'est un début, un symbole fort de réconciliation, mais c'est aussi le début d'un long processus de dialogue, de compromis, de construction d'une relation complexe, parfois conflictuelle, mais toujours essentielle pour l'Europe.
Absolument. Et c'est ce qu'on va continuer à explorer ensemble. On va voir comment ce traité a concrètement influencé la relation franco-allemande et quelles sont ses limites. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.
Gérard, à bientôt.
Oui, sûr.
À bientôt. On va continuer à explorer le traité de l'Élysée, mais cette fois, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet.
Ah oui.
On va décortiquer ce qu'il y a dedans article par article.
D'accord.
Rappelez-vous, il repose sur trois piliers: la politique étrangère, la défense et l'éducation et la jeunesse.
OK, on est prêt. Alors, commençons par la politique étrangère.
Oui.
Le traité prévoyait des consultations régulières entre les deux pays sur les grandes questions internationales.
Exactement. Et c'est devenu une vraie habitude depuis.
Ah oui.
Les ministres des Affaires étrangères français et allemands, ils se rencontrent très souvent. Et les deux pays, ils essaient de se mettre d'accord avant de prendre position à l'ONU ou dans l'Union européenne.
Donc on peut dire que le traité a donné plus de poids à la France et à l'Allemagne sur la scène internationale.
Ah oui, clairement. Quand la France et l'Allemagne parlent d'une seule voix, elles sont beaucoup plus fortes
C'est logique.
que quand elles sont chacune de leur côté. Le traité, il a créé une vraie force diplomatique. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord sur tout.
Ah non, bien sûr. Justement, parlons de la défense.
Oui.
Le traité prévoyait une coopération plus étroite en matière de défense,
Oui.
mais sans aller jusqu'à créer une armée commune.
C'est ça.
C'est quoi l'idée derrière ça?
L'idée, c'était de travailler ensemble sur des projets concrets. Par exemple, ils ont créé l'Eurocorps en 1992.
Oui.
C'est une force militaire avec des soldats de plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne.
Il y a aussi la brigade franco-allemande créée en 1989.
Symboliquement, c'est fort.
Oui, c'est vrai, mais attention, la coopération en matière de défense, ça a toujours été un sujet délicat.
Ah bon?
Paris et Berlin, ils n'ont pas toujours la même vision des choses.
C'est-à-dire, vous pouvez nous donner un exemple concret?
La France, elle a toujours voulu une défense européenne indépendante.
Oui.
Tandis que l'Allemagne, à cause de son histoire et de sa position géographique, oui.
Elle a toujours préféré rester proche des États-Unis.
Je vois, mais ça a créé des tensions entre les deux pays.
Oui, parfois, par exemple, pendant la guerre en Irak en 2003, la France était contre l'intervention américaine alors que l'Allemagne, même si elle n'a pas envoyé de soldats, elle a soutenu les États-Unis politiquement.
Aïe, ça a dû créer des remous.
Oui, mais ça n'a pas remis en question la coopération entre les deux pays. Heureusement, le traité a permis de garder un dialogue ouvert.
D'accord.
Ça permet de gérer les désaccords et de trouver des compromis.
C'est un peu comme une soupape de sécurité. Alors, ça évite que ça explose.
Exactement. Le traité, c'est un garde-fou. Ça permet d'éviter que les désaccords se transforment en conflits ouverts.
Ok, très intéressant. Passons maintenant au troisième pilier du traité. L'éducation et la jeunesse.
Oui, avec plaisir.
L'accent était mis sur l'apprentissage des langues et les échanges culturels, c'est bien ça.
Oui, et là, on peut dire que c'est une vraie réussite. La création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en 1963, ça a permis de financer des milliers de projets d'échange entre jeunes des deux pays. Imaginez tous ces jeunes qui ont pu découvrir la culture de l'autre.
C'est énorme. Le AVIJ a vraiment joué un rôle important dans le rapprochement entre les Français et les Allemands alors.
Ah oui, sans aucun doute. Le AFEJ a permis à des millions de jeunes de se rencontrer, de se faire des amis.
C'est génial.
C'est incroyable l'impact que ça a eu.
Oui, c'est la preuve que des actions concrètes, ça peut vraiment changer les choses.
Absolument. Le traité a permis de créer un climat de confiance, une vraie amitié franco-allemande.
Et cette amitié a été traduite par d'autres initiatives, non? On pense aux écoles bilingues, aux diplômes à bac.
Tout à fait. Et ça a eu un impact positif sur l'apprentissage des langues. Depuis la signature du traité, il y a beaucoup plus de jeunes Français qui apprennent l'allemand et vice-versa.
Mais est-ce que cet engouement pour les langues, il continue aujourd'hui? On a parlé dans la première partie qu'il y avait une baisse d'intérêt.
Oui, c'est vrai, et c'est un peu inquiétant. Le multilinguisme, c'est une richesse pour l'Europe. Il faut encourager les jeunes à apprendre les langues étrangères, surtout entre la France et l'Allemagne.
Comment on fait pour inverser la tendance alors?
Il faut rendre l'apprentissage des langues plus attractives, plus accessibles. Il faut montrer aux jeunes que parler plusieurs langues, c'est un atout pour leur avenir.
Oui, c'est clair. Et peut-être changer la façon dont on enseigne les langues à l'école, la rendre plus ludique, plus interactive.
Oui, c'est une piste à explorer. Apprendre une langue, ça ne doit pas être une corvée, ça doit être une aventure, une découverte.
Et c'est justement ce que le traité de l'Élysée a permis de faire. Ouvrir le dialogue, créer des ponts entre la France et l'Allemagne.
C'est un héritage précieux qu'il faut absolument préserver et transmettre aux générations futures.
Tout à fait. On a vu aujourd'hui que le traité de l'Élysée a eu un impact considérable sur la relation franco-allemande.
Oui.
Il a permis de créer une véritable amitié entre les deux pays
Mmh.
et de poser les bases d'une coopération politique, économique et culturelle très forte.
C'est ça.
Mais on a aussi vu que cette relation, elle n'est pas toujours simple.
Non?
Il y a des désaccords, des divergences de point de vue.
Oui.
C'est normal.
Bien sûr.
Si qu'on sait que le dialogue reste ouvert
Exactement.
et que la France et l'Allemagne continuent à travailler ensemble pour construire une Europe plus forte et plus unie.
Je suis d'accord avec vous.
Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette deuxième partie de notre plongée dans le traité de l'Élysée.
Déjà.
On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie où on va parler de l'impact du traité sur la construction européenne.
Avec impatience.
À bientôt.
À bientôt. Allez, on continue notre exploration du traité d'Élysée.
Oui.
Mais cette fois, on va prendre un peu de hauteur. On a beaucoup parlé de la relation entre la France et l'Allemagne.
Oui.
Mais il faut aussi voir comment ce traité a influencé la construction européenne.
C'est vrai.
Et quelles sont ses perspectives d'avenir?
Oui, c'est vrai qu'on oublie parfois que le traité a été signé au moment où l'Europe commençait vraiment à se construire. La communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, elle venait d'être créée quelques années plus tôt.
Exactement. Et De Gaulle, il voyait dans le couple franco-allemand le moteur d'une Europe plus indépendante, plus forte sur la scène internationale. Une Europe capable de rivaliser avec les États-Unis et l'Union soviétique. C'était vraiment une vision ambitieuse.
Mais est-ce que tous les pays étaient d'accord avec cette idée d'une Europe dominée par la France et l'Allemagne?
Alors,
je pense notamment au Royaume-Uni.
Ah, le Royaume-Uni. Disons que De Gaulle n'était pas très enthousiaste à l'idée de les voir rejoindre l'Europe.
Ah, bon.
Pourquoi? Il les voyait comme un cheval de Troie des États-Unis.
Ah, je vois. Et cette méfiance, elle a disparu après le départ de Gaulle.
Pas vraiment. Il a fallu attendre 1963 après sa mort.
Ah oui, quand même.
Pour que le Royaume-Uni puisse enfin adhérer à la communauté économique européenne. Ça montre bien à quel point De Gaulle a marqué la construction européenne.
Oui, c'était vraiment un personnage hors du commun.
Oui, un visionnaire, mais aussi un pragmatique. Il savait que la France ne pouvait pas tout faire toute seule en Europe. Il avait besoin d'Allemagne pour construire une Europe plus forte, plus unie.
Et pendant longtemps, cette alliance franco-allemande a été la base de la construction européenne.
C'est ça.
Jusqu'à la réunification allemande en 1990, qui a un peu tout chamboulé.
Ah oui, la réunification. Ça a été un moment clé. Tout à coup, l'Allemagne est réunifiée, elle devient plus puissante.
Logique.
Et ça pose des questions. Quelle place pour cette nouvelle Allemagne dans l'Europe? Comment maintenir l'unité de l'Union européenne avec tous ces nouveaux pays qui arrivent de l'Est?
La France et l'Allemagne ont dû s'adapter alors.
Exactement. Et le traité de l'Élysée a été un outil précieux pour dialoguer, pour coopérer. Il a permis de rassurer les autres pays européens sur les intentions de l'Allemagne.
Et il a permis de continuer à construire l'Europe malgré les changements.
On l'a vu dans les parties précédentes, la relation franco-allemande n'est pas toujours facile. Il y a des désaccords, des tensions.
Oui, bien sûr. La France et l'Allemagne sont deux pays différents avec leurs propres intérêts, leur propre vision du monde. C'est normal qu'il y ait des frictions parfois.
Oui, bien sûr. Mais malgré tout, cette alliance, elle reste essentielle pour l'Europe? Non.
Absolument. La France et l'Allemagne, elles ont besoin l'une de l'autre pour faire avancer l'Europe. Elles sont les deux piliers de l'Union européenne. Sans leur coopération, l'Europe ne peut pas relever les défis du 21e siècle.
Ah oui, des défis, on en a parlé. Le climat, la mondialisation, la montée des populismes, les tensions géopolitiques, c'est pas facile.
Non, ce n'est pas facile. Mais face à tous ces problèmes, la France et l'Allemagne doivent absolument parler d'une seule voix.
Ce qui veut dire faire des compromis parfois.
Oui, c'est le prix à payer pour une Europe plus forte, plus unie.
Alors, quel avenir pour le traité de l'Élysée? Est-ce qu'il est encore utile aujourd'hui? Le traité a fêté ses 60 ans en 2023.
Déjà.
Et en 2019, on a signé le traité de la Chapelle qui vient le compléter. L'objectif, c'est de renforcer la coopération franco-allemande dans plein de domaines. La politique étrangère, la défense, l'éducation, la culture.
Donc ça veut dire que le traité est toujours important pour la relation entre la France et l'Allemagne.
Oui, c'est un symbole fort. Mais il faut aller plus loin. Il faut redynamiser ce moteur franco-allemand pour qu'il donne un nouvel élan à la construction européenne.
Et ça dépend de la volonté politique des deux pays, alors.
Exactement. Les dirigeants français et allemands doivent être à la hauteur des enjeux. Ils doivent s'engager pour une Europe plus intégrée, plus solidaire, plus démocratique.
Une Europe qui puisse défendre ses intérêts et ses valeurs dans un monde de plus en plus compliqué.
Voilà le défi que la France et l'Allemagne doivent relever ensemble. Le traité de l'Élysée, malgré ses imperfections, il reste un symbole puissant de réconciliation et de coopération. C'est un héritage précieux qu'il faut préserver et transmettre aux générations futures.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est passionnant de voir comment ce traité a façonné la relation franco-allemande et l'Europe d'aujourd'hui.
Merci à vous.
J'espère que nos auditeurs ont appris des choses et qu'ils sont aussi enthousiastes que nous par ce sujet.
Moi aussi.
En tout cas, on a essayé de leur donner toutes les clés pour comprendre cet accord historique et ses enjeux pour l'avenir.
Tout à fait.
Voilà, c'est la fin de plonger dans le traité de l'Élysée. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.
À bientôt.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.